reprendre maintenant la discussion. Je pense que j'ai pu récolter ici quelques questions et on voit qu'il y a quand même des choses très importantes qu'on doit approfondir. Alors, je vais brièvement les mentionner, et bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais ça nous donnera peut-être déjà un petit cadrage. Premier, je pense qu'il y a vraiment un besoin, Daniel, de repréciser en quoi les différentes structures juridiques actuelles posent problème. Parce que je pense que là, il y a des questions qui ont été formulées pour dire, mais fondamentalement, en quoi vraiment l'association aujourd'hui ne me permet pas de faire certaines choses. Et deuxième point, c'était la question de Marc, là, c'est je travaille aujourd'hui dans une ASBL, je travaille à côté aussi dans une entreprise classique. Comment est-ce que je peux mieux créer des ponts
surtout dans une société classique.
Classique et à côté dans une ASBL. Voilà. Comment est-ce que je peux mieux créer des ponts et en quoi les propositions de modification juridique que tu proposes pourraient contribuer à l'établissement de ces ponts. Une troisième question qui est toujours liée au domaine juridique, c'est comment expliquer les a priori des législateurs qui ont mené à une telle opposition entre les formes juridiques de l'économie sociale et les formes juridiques de l'économie capitaliste. Quels étaient vraiment les a priori, comment les expliquer ces a priori qu'ils ont eu quand ils ont imposé par exemple aux formes juridiques de l'économie sociale ce mode de rapport au pouvoir qui est fondamentalement différent de ceux de l'économie capitaliste et que tu remets aujourd'hui en question. Et donc aussi comment expliquer leur réticence actuelle peut-être à remettre ces différences en question et à accepter les hybridations que tu proposes entre autres. Et puis alors, je pense que là ça va faire aussi le cœur de la discussion une fois qu'on aura abordé ces trois premières questions, c'est celle qui concerne la motivation. Parce que là, je crois qu'il faut aller vraiment plus en profondeur. Plusieurs questions qui ont été formulées. Pourquoi l'attention à l'autre que tu as évoquée va-t-elle nécessairement induire une autre dynamique du capitalisme ? En quoi est-ce que cette attention à l'autre peut être vraiment le moteur du changement ? En quoi est-ce que c'est suffisant ? Et une autre manière peut-être de formuler les choses, c'est dans quelle mesure un impact fort du social business ne présuppose-t-il pas un changement fondamental au niveau des individus ? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose de plus en perspective pour réformer le capitalisme et surtout à un moment où l'individualisme est très très fort. Et ce qui nous amène à une question qui touche aussi à tout cela, c'est est-ce que ceux qui font du social business ne sont pas fondamentalement motivés à faire de la morale ou à chercher du sens sans qu'ils l'expriment ou qu'ils l'explicitent. Voilà, quelques balises pour, je dirais, guider notre débat. Mais peut-être commençons par les aspects juridiques. Et la première question sur les différences.
Bon, ce sont de très très bonnes questions. Donc, vraiment de très très bonnes questions. Donc, je ne vais pas y répondre seul. Je ne vous apporte pas...
La science infuse.
Non, je ne vous apporte pas la science infuse. Dans la réflexion que je poursuis, qui me tient à cœur, j'inverse peut-être les choses là, mais je le dis quand même. Merci de poser ces questions parce qu'elles me forcent à aller plus loin. C'est quand même une idée, c'est quand même des idées actuellement work in progress. Je crois assez novatrice sur un certain sujet et vous les challengez très 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 heureusement. Donc je vais y répondre, mais je suis encore en différence avec. C'est à la fois un avantage et un inconvénient avec les orateurs que vous avez habituellement, ce travail de structuration que je fais autour de conceptualisation du social business et des espoirs que je nourris quant à ses effets, tout ça je les tire de la pratique et de l'observation. Donc ça a forcément un effet sur... c'est pas un système tout bouclé que je vous propose. C'est une voie qui me paraît intéressante que j'essaye de structurer. C'est très important de garder ça à l'esprit. Je ne présente pas ça comme une excuse. Je présente ça comme une caractéristique.
Et par ailleurs, je veux dire que évidemment, on n'est pas là pour te poser des questions et que tu répondes seul. On est là pour interagir entre nous. Donc, Tu ne dois pas être le seul à répondre.
Ouais. Alors, la première question, les différentes structures. Alors, écoutez,
je vais y revenir parce que ça. Je vais y revenir. Sur. La société coopérative, je reprends les termes de Lavergne, qui est un peu à l'origine. La société coopérative, alors ça c'est, on remonte là au 19e, est celle où l'être humain pourra épanouir ses virtualités infinies en une liberté plus grande qu'à l'heure présente sous le règne du profit privé et où une beaucoup plus grande équité dans les répartitions des richesses enfin serait atteinte. La société coopérative se propose de supprimer les intermédiaires, son objet, si on revient à ce qu'elle est au départ. Elle se propose de supprimer les intermédiaires afin de diminuer une dépense ou d'augmenter en un gain. Elle se caractérise par la réunion en la même personne de deux qualités généralement séparées, entre lesquelles il existe une antinomie naturelle, patron et salarié, marchand, détail et consommateur, banquier, emprunteur, et par le rôle effacé et secondaire qui joue le capital par rapport au concours personnel et au travail des associés. Voilà la coopérative décrite, non pas, c'est pas en termes juridiques, mais décrite par Lavergne. Elle se propose de supprimer les intermédiaires, n'est-ce pas ? Elle est... Son but n'est pas de réaliser ou partager un profit, mais d'améliorer le sort de ses membres. Donc, il y a dans la coopérative une décision, si vous voulez, la décision de choisir le statut de coopérative, de s'adresser comme destinataire de ses services, soit à ses travailleurs, soit à ses fournisseurs, enfin, soit à ses employés, oui, travailleurs, enfin, fournisseurs ou clients. C'est une logique, c'est un circuit fermé, hein, a priori. C'est une logique tout à fait intéressante qui peut très bien et qui est enfin, mais qui est une logique différente de celle que je vous présente aujourd'hui. Où, au contraire, je me repose sur l'apport de capitaux et où un entrepreneur et non pas les membres, les clients, les travailleurs. Un entrepreneur veut s'attaquer, ou plusieurs bien sûr, veut s'attaquer à un besoin social qu'il a diagnostiqué et qui concerne des gens qui ne seront jamais liés au fonctionnement de la société. Les bénéficiaires de ces services ne sont pas a priori, ne sont pas a priori appelés à prendre part à la gestion de la société, aux prises de décision de la société. Est-ce que la coopérative initiale et pure est d'une certaine façon un social business, une sous-catégorie de social business où les clients ou les bénéficiaires des services seraient les coopérateurs? Oui, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, la coopérative ne répond pas à l'ensemble de la question posée par le social business. Parce que je ne m'adresse pas forcément, je peux avoir un mode de gouvernance tout à fait classique, voire... tout à fait classique d'une entreprise traditionnelle. Je ne sais pas si je suis clair sur cette question.
Par rapport à la coopérative, oui. Par rapport à l'ASBL.
Ah, je vais y venir, oui, je vais y venir si vous voulez. Mais déjà, par rapport à la coopérative, pour être... oui.
Je reviens avec cette question. Dans quel but, en fait? Est-ce que le but, c'est de voir si un modèle de structure d'entreprise au sens large, hein, peut apporter une contribution à la société? Est-ce que c'est ça notre comparaison, ou est-ce qu'une entreprise doit être socialement responsable, et pas nécessairement, mais globalement socialement responsable, et donc réfléchir aussi à effectivement ici, mais par rapport à ceci.
Mais moi, le questionnement que j'ai, c'est que je veux simplement permettre à un acteur nouveau et additionnel de prendre sa place sur le marché. Je ne veux pas dire, je suis pas, je veux, pourquoi est-ce que je parle de la coopérative? D'abord parce que vous posez la question, et pourquoi est-ce que j'en parle dans mon livre? C'est parce qu'on peut, se dire, il y a une grande tendance, il y a toujours des protectionnistes, non, c'est de dire, rien de neuf sous le soleil, circuler, il y a rien à voir, on peut très bien, si on a un but social, utiliser l'association ou la coopérative. Je vais en parler. Je pense, oui, je peux prendre cette position, je peux dire, eh bien, vous voulez poursuivre un but social, eh bien, vous allez utiliser la coopérative, et j'ai encore lui tordre un petit sous le cou pour pouvoir... Très bien, mais pourquoi? Pourquoi ferais-je cela alors que j'ai un acteur nouveau qui émerge? Pourquoi irais-je le contraindre à revêtir un habit qui n'a pas été pensé pour lui, qui n'est pas adapté pour lui? C'est une autre logique, c'est au lieu d'avoir, si on est au 19e, au lieu d'avoir des intermédiaires, au lieu d'avoir forcément dissociation entre celui qui produit le bien et celui qui le reçoit, j'invente la coopérative, je court-circuite les intermédiaires et maintenant je décide que mes associés seront mes coopérateurs. Idée très très généreuse, idée tout à fait intéressante et qui constitue un véritable saut au 19e, hein, où on n'avait que l'entreprise avec le patron tout puissant, avec une gouvernance encore à l'époque très balbutiante. Donc c'est un saut, il faut se remettre à l'époque. Hein, on est, qu'est-ce que j'ai? J'ai les grands maîtres des forges, j'ai les grands maîtres du Nord, j'ai une organisation pour les meilleurs paternalistes, pour les pires autoritaires. Et j'invente un nouveau mode d'organisation de la société. Une idée extraordinaire, parfaitement adaptée à l'époque. Je parle tout simplement d'autre chose. Donc, qu'on puisse faire encore une fois du social, que je dise maintenant, moi j'ai diagnostiqué tel besoin à tel endroit et je vais répondre par une société, mais ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tous les gens qui ont ce besoin de devenir mes associés. D'accord? Je vais leur proposer de devenir mes associés. Ça n'a pas été trop pensé pour ça. Enfin, admettons que je fasse cela. Pourquoi pas? J'aurai une coopérative de social business.
En fait, tel que moi je comprends les choses, c'est que tu dis en gros, il y a d'un côté aujourd'hui l'économie sociale qui associe un but social à une logique de gouvernance particulière. D'un autre côté, il y a l'entreprise traditionnelle qui est une logique de profit auquel est associé un mode de gouvernance particulier et très différent du premier, beaucoup plus flexible. Et ce que tu proposes, c'est de découpler les deux pour créer un hybride qui associe la logique de gouvernance du privé, enfin de l'entreprise capitaliste, à un but social. Est-ce que c'est...
Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que la coopérative n'a pas forcément un but social. La coopérative, c'est une organisation. C'est ce qui est social, c'est le mode d'organisation. D'accord. Mais elle n'a pas forcément... D'accord. Elle est sociale à cause de son mode d'organisation.
De son mode d'organisation. Oui, d'accord.
Ça, c'est vraiment très important de comprendre ça. D'accord. Alors que mon social business, il a dans son mode d'organisation rien c'est de social. Oui. Il peut l'avoir comme la coopérative peut avoir un but social, bien sûr, mais dans l'identité, vous voyez, là, ça c'est vraiment très important de comprendre ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, on a un mouvement assez, très hostile au social business, en disant, mais c'est pas du social, ça c'est pas possible, c'est l'économie capitaliste, il faut les repousser, ou alors il faut les attirer chez nous en les tordant. Je dis que ce serait une occasion extraordinaire ratée d'avoir un nouvel acteur qui procède d'une autre logique. Est-ce que c'est...
Oui, c'est très important.
Et qui donne une autre réponse à cette pression qui produit la RSE.
Voilà.
Là maintenant, mais quand vous dites ça, vous soulevez, vous ne le comparez plus à l'économie sociale, vous parlez de lui par rapport à l'économie capitaliste. Absolument. Exact. C'est un autre voilà.
C'est une autre réponse.
C'est une voilà. Ça c'est voilà. Ouais.
Et par ailleurs, sur le cas français, en règle générale, lorsqu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire se fixe un objectif social, elle se casse la figure. Les coopératives qui perdurent n'ont pas d'objectif social, notamment dans le bassin méditerranéen. Oui. Les coopératives qui sont solides, elles n'ont pas d'objectif social. Oui. Et en complément aussi, effectivement, c'est le but social et l'objet social qui prime dans le social business. Et ce qu'on peut quand même souligner, c'est que l'une des contraintes du social business, c'est qu'elle doit avoir une efficacité tout à fait remarquable. Parce qu'en règle générale, elle existe et elle ne peut être pérenne que parce qu'elle va être particulièrement efficace, non seulement pour répondre aux besoins sociaux, mais aussi pour organiser un mode de production qui va limiter les coûts.
Elle a
plus de contraintes. Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que le modèle coopératif, qui est un modèle très intéressant, mais assez peu souple et réactif, n'est pas nécessairement le plus adapté pour répondre à des problématiques sociales extrêmement difficiles. Voilà.
Alors, sur l'association. Peut-être juste un petit point d'ordre juridique sur la coopérative. La coopérative est une société, là ça se complique un tout petit peu. Mais le législateur en 47 en France a beaucoup hésité. Il a vraiment hésité, il a hésité entre l'association et la société. Il aurait pu prendre l'un ou l'autre, il ne savait pas où la mettre. Et vraiment, les débats, il y a eu, si on regarde les débats, ils sont très nourris. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il tord le cou au droit des sociétés. Complètement. C'est-à-dire, il leur dit que c'est une société, mais le droit des sociétés ne s'applique à peu près pas du tout au droit de la coopérative. C'est absolument c'est étonnant. C'est absolument étonnant. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la coopérative, les grandes coopératives bancaires notamment, sont en concurrence avec les autres, avec les grandes banques commerciales, enfin, non les autres banques, oui, du droit commercial, autres. Eh bien, il donne des décrets, on a un foisonnement de décrets qui lui donne de plus en plus de souplesse jusqu'au moment où elle perd complètement son identité. Autrement dit, il n'y a quand même plus beaucoup de créations. Enfin, c'est un instrument adapté pour une situation maintenant très, très, très particulière, un instrument vraiment un peu complexe. Voilà pour la coopérative. Pour l'association, le même type de raisonnement, il y a une, mais un peu différente. L'association est définie de manière très 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 large, hein. C'est tout ce qui n'est pas société en gros. L'association a un mode de gouvernance qui est, alors, comme la loi ne dit pas grand chose, on peut tout se permettre, mais a priori quand même très démocratique. C'est un homme, une voix. Il n'y a pas de capitaux. Est-ce que vous voyez une banque? Alors, l'association peut avoir une activité économique. Elle peut l'avoir. Nous, on a un problème avec l'acte de commerce par l'association. On pose un certain nombre de questions, mais enfin bon. Il y a un rapport récent sur l'association, un rapport parlementaire qui indiquait l'extension de l'activité économique n'est pas souhaitée dans le secteur associatif. Il faut admettre que si l'activité économique n'est pas en soi incompatible avec l'activité associative, elle peut nuire à l'image du secteur et être vécue par ses membres comme une perte d'identité. L'association, nous avons une jurisprudence assez précise qui indique que l'activité lucrative ne peut pas devenir principale dans une association. Elle, tant qu'elle reste accessoire à l'objet de l'association, elle est tolérée ou même acceptée, elle est acceptée. Mais elle ne peut pas devenir première. Ça, c'est pour l'activité, au niveau de l'activité. Voyez bien que dans le social business, l'activité économique, elle est non seulement première, elle est l'objet même de l'entreprise. C'est l'objet même, c'est très différent du cas d'une association qui a un objet, qui a éventuellement une activité économique pour faciliter, pour développer l'objet. Exemple classique, l'association de pêche qui met une buvette au bord de l'étang, elle a une activité économique, la buvette, qui va permettre d'acheter les carpes pour les mettre dans l'étang. C'est ça l'activité économique de l'association. L'activité économique, en tout cas, ne peut pas devenir l'objet principal de l'association. Or, moi,
Non, certaines associations sont vraiment des... Enfin,
chez nous, c'est possible.
Oui, c'est tout à fait possible.
Que l'activité économique soit première, qu'il soit l'objet même de la...
Et d'ailleurs,
pardon,
elles sont taxées à l'impôt des sociétés.
Non. On n'a pas une activité économique. Ah ben non, l'objet de cette association, il est, c'est sûrement pas moi à en parler qui arrive, mais enfin il me semble que c'est l'échange d'idées, hein, qui est une contribution aux frais. Ah, ce n'est pas une activité économique, ce n'est pas une activité commerciale.
Non, mais c'est correct, il y a des paiements, il y a des choses comme ça.
Donc, c'est correct, c'est une activité économique.
Il y a une activité économique.
Il y a une activité économique.
Il n'y a pas une recherche de profit.
Non, mais une activité économique dans toute association, puisque j'ai toujours une cotisation.
La définition, c'est quand l'association met en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.
Oui, mais pas le cas en France. Donc c'est le palais des congrès chez nous, enfin le palais des expositions chez nous, c'est une ASBL. Touring Secours, qui est
D'abord, le paiement, l'objet, l'activité principale de votre association n'est pas la production de biens ou de services que vous allez offrir au marché. Vous avez le fait de payer, moi j'ai une association de théâtre, et effectivement tous mes membres ils payent une cotisation et ils payent un droit d'entrée. Mais
c'est parce que vous ne mettez pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.
Oui.
Mais certaines associations, en tout cas en Belgique, mettent en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales, qui fait d'ailleurs qu'elles sont soumises à l'impôt des sociétés. Et pas à l'impôt des personnes morales.
Alors qu'elles sont une
ASBL.
Oui, mais même le palais des... Enfin, j'ai connu les cas des palais des congrès. Les palais des congrès étaient chez nous aussi sous forme, ou soit encore parfois sous forme d'association. Mais toute l'activité économique, une fois qu'on parle d'activité économique, elles sont généralement par des sociétés, gérées par des sociétés qui appartiennent à l'association. Moi, je n'ai jamais... l'exploitation, généralement, est donnée à une société. Alors, je ne connais pas le droit belge, mais encore une fois, votre objet, l'objet de cette association, n'est pas la production de biens et de services. C'est pas parce que je paye une cotisation que l'activité de l'association est une activité économique. Nous avons un problème. Bon, c'est la première raison pour laquelle l'association... n'est pas adapté à une volonté de conduire une activité entrepreneuriale qui a tout à fait traditionnelle. Deuxièmement, c'est la gouvernance, hein, c'est un homme, une voix, et c'est l'absence de capitaux. L'absence de capitaux, est-ce que vous voyez une banque, les banques essayent de faire, enfin Laurent pourra parler bien mieux que moi, c'est la difficulté qu'a une association à lever de la dette, puisque n'ayant pas de capital, c'est quand même pas rassurant du tout. Là, on a un acteur qui a un patrimoine propre. Elle peut avoir un grand patrimoine, mais comment...
Sans avoir de capital.
Sans avoir de capital, elle peut avoir... Oui, mais est-ce que vous avez... Oui, mais à ce moment-là, c'est des garanties réelles qui sont données.
Ça.
On n'est quand même plus dans une activité économique facile à conduire, tout est faisable, mais...
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que je pense avec les structures qu'on a chez nous en ASBL, par exemple le cas du yaourt d'Alain, on pourrait très bien imaginer que ce soit une ASBL en fait qui aille demander à un fournisseur qui s'appelle Danone de collaborer sur en fait un besoin local de nutrition et que le fournisseur Danone développe en fait un produit avec eux sous base d'une contrainte financière qu'il faut que ça soit le moins cher possible en utilisant les capacités locales et ainsi de suite.
D'accord, mais qui vend ? Je vous suis tout à fait. Mais maintenant, vous avez eu ce contact, l'association a eu ce contact avec Danone. Maintenant, qui va vendre le produit ?
Chez nous, vous avez le faire. Jusqu'à peut-être un moment où, en fait, il va être attaqué parce que ça va devenir rentable et donc le monde économique va commencer à râler.
Voilà. Est-ce que vous pensez, d'une part, premier point, deuxième point, est-ce que vous pensez que Danone va collaborer avec une association dans les décisions il faut prendre les décisions d'employés du monde, toutes les décisions d'affaires quotidiennes. C'est quand même pas... Vous allez faire quoi ? Vous allez vous rencontrer quotidiennement. Enfin, c'est extrêmement complexe. L'association n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour, au quotidien, gérer une activité économique avec toutes les décisions, les chèques à faire.
Bon. Sam le fait, par exemple, chez moi. C'est une grosse société qui développe plein de produits de commerce équitable, un peu comme Edicable, pour dire un exemple qui est coopératif en France. Mais chez nous, c'est une...
Enfin, pour reprendre l'exemple, si vous dites à Danone, enfin, ce que Danone veut dire tout de suite, c'est bah, écoutez, ensemble, vous, association et moi, créons ensemble une société dont vous détenez la moitié des parts, dont je détiens la moitié des parts, et où je vais nommer quelqu'un. Il peut y avoir, je ne connais pas l'exemple que vous mentionnez, mais il va y avoir quelqu'un qui va prendre les décisions au quotidien nécessaires à la conduite d'une entreprise.
Et puis il y a l'apport en capital qui.
L'apport en capital aussi. Mais vous voyez, il faut que j'ai quelqu'un qui a le pouvoir au Bangladesh ou en Belgique ou en France ou n'importe où de conduire, d'avoir la responsabilité et de conduire au quotidien. L'association n'est quand même pas.
Il y a quand même.
Enfin, elle n'est pas structurée du tout pour ça. Écoutez, tout est faisable, mais l'association n'est pas faite pour cela. Le fait que, a priori, toutes les décisions. Mais c'est une association qui fonctionne autour d'une personne et il prend toutes les décisions seul. Je veux dire, au quotidien, il y a des décisions à prendre. Vous allez réunir vos membres? Non, vous allez donner une délégation à quelqu'un.
Mais Thierry, on peut peut-être retourner la question parce que. Attends, c'est important. Tu sembles dire effectivement qu'on peut faire plein de choses avec la SBL. Et en gros, tu te dis, bon, alors pourquoi avoir cette modification juridique qui faciliterait le social business? Inversement, qu'est-ce qui te pose problème dans le fait qu'on crée cet autre instrument juridique?
Enfin, moi, j'avais quand même plus loin. Je pense que l'association n'est pas faite pour cela et qu'elle n'est pas. Je connaîtrai avec intérêt le détail de l'exemple, mais je pense qu'elle ne peut pas au quotidien. Prendre des décisions d'affaires, il n'a pas la gouvernance pour faire cela, prendre des décisions d'investissement, d'arrêt d'une usine. Il faut normalement, j'ai un principe, il absolument pas fait pour ça, de choisir le fournisseur, tel autre, dans une activité qui va être importante, qui va être quotidienne. Ou alors, elle a donné une délégation à une personne pour le faire. Mais là, je rentre dans des questions extrêmement délicates de responsabilité. Deuxièmement, il a quand même maintenant créé des entités. Lui, qu'est-ce qu'il dit dans chaque fois qu'il est à Turbivé? Il dit, le problème que j'ai, c'est que dans mon environnement, je n'ai pas l'efficacité managériale que je devrais avoir. Et donc, il commence à chercher les gens dans les écoles de commerce. Je veux bien qu'on parle encore d'association, mais enfin, on sort des lois, on est dans une logique entrepreneuriale. Et d'ailleurs, il crée maintenant en dessous d'association des sociétés.
Est-ce qu'il y a la limite justement entre l'associatif et le social business?
Alors, pardon?
Est-ce que c'est un social business non conscient?
Non, c'est du social business. Non, c'est du social business ce qu'il fait, clairement, mais il le fait pour l'instant sous forme d'une forme associative. Mais je vous dis, quand vous l'écoutez, il dit je veux mettre en place, je veux recruter des gens qui ont fait des écoles de commerce, je veux une organisation d'entreprise. Donc, c'est ce qu'il dit partout. Il le fera. Et par ailleurs, il crée des sociétés dans une association. Parce que le bon modèle, c'est ça. Hein, le bon modèle, c'est un modèle où vous avez association. Moi, je ne connais pas beaucoup d'autres modèles qui fonctionnent bien. Association, société privée, collaboration entre les deux, social business en dessous. C'est à peu près ce qui se fait. Et c'est ce vers quoi il va.
Je crois qu'une des caractéristiques de ce que nous avons en Belgique, sous le terme de l'ASBL, c'est que s'il y a surplus d'exploitation, il doit être totalement inscrit au passif dans des réserves. Il ne peut pas être distribué à quiconque. Mmh. C'est ça la caractéristique. Maintenant, il peut y avoir des surplus d'exploitation, il peut y avoir une bottom line qui est positive, sans aucun problème, du moment que cette bottom line, enfin que le résultat positif de cette. Soit entièrement introduit au passif dans un compte de réserve afin d'être utilisé pour les objectifs sociaux. Bon, la plus connue que moi je connais, c'est la SBL Terre dans le pays de Liège là, et qui a déployé. Mais Touring Secours est organisé comme ça. Ils ont une activité économique, mais le surplus positif doit être réinvesti dans les
pays. Mais si vous voulez, là où. Enfin, on doit pouvoir le faire dans une association, on peut tout faire. Enfin, nous, on ne peut pas avoir une activité économique prépondérante. Bon. Maintenant, je pense que ce n'est pas du tout l'instrument adapté. Je pense que c'est vraiment.
C'est vraiment ça. C'est pas le meilleur costume qui soit.
Non.
L'exemple de Borrello, par exemple, il va devoir muter probablement.
Il va muter. Ça, je vous le garantis qu'il va muter.
On peut aussi imaginer qu'une ASBL détiennent toutes les actions d'une société commerciale.
Tout à fait. C'est ce qui se passe souvent. C'est sûrement ce qui se passe au sein des congrès. Moi, je ne connais pas les congrès français que je connais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent.
Ce qui serait intéressant, c'est de voir pourquoi Bolero va devoir, muter. Ce qui serait intéressant, c'est est-ce que c'est parce qu'il va chercher des HEC pour ses entreprises ou est-ce que c'est parce qu'il y voit dans l'association un certain nombre de freins, tant au niveau peut-être de la recherche de capitaux ou d'autres raisons. Enfin, parce que c'est de fait, pour moi, c'est un holding classique, mais dans le social business.
Absolument.
Absolument. Absolument,
c'est un holding, absolument.
Mais il y a un frein majeur au financement, parce que même si cet ASBL est en tête et détient toutes les actions, ça veut dire que le financement doit passer par cet ASBL.
Non.
Ah ben alors il détient plus toutes les actions.
Non, parce que non, il n'y a pas forcément toutes les actions, mais il peut garder le contrôle, mais il peut aussi procéder par endettement. Alors en dessous, il a d'autres façons de faire, il peut toujours garder le contrôle. Oui. Mais c'est surtout la gouvernance. Bon, lui, il a une personnalité qui peut faire qu'il doit diriger son association comme il. Et que je pense que. Je pense que c'est un homme, un homme assez rusé. Et il y a un vrai débat aujourd'hui, les fameux 100 millions de M. Sarkozy, est-ce qu'ils vont être. Ils sont destinés à l'économie sociale et solidaire. Est-ce que si vous n'avez pas la forme, ça c'est vraiment, c'est un peu attristant, mais c'est vraiment un débat franco-français, si vous n'avez pas la forme de. Une des formes qui appartient à l'économie sociale, est-ce que vous allez pouvoir avoir accès. C'est vraiment des sujets d'arrière-garde. C'est assez malheureux mais c'est un débat chez nous très très vif actuellement et c'est pour ça qu'il est important. Aujourd'hui, il y a un mouvement de la part de l'économie sociale d'essayer d'attirer le social business très fort chez lui, très très fort. Non, c'est pas la peine de. On peut, dans le cadre d'associations et coopératives, tout faire parce qu'il y a des grands sujets passionnants représentation du secteur. Donc, si on amène ça encore chez nous, en termes de représentation, on va être plus fort, en termes de fédération. Enfin, écoutez, je crois que par rapport à ce dont nous parlons depuis 2 heures, c'est quand même des sujets un peu attristants. Ce qui est important, c'est qu'il y a des besoins sociaux, ils doivent être remplis. On propose qu'il y ait d'acteurs de plus. Il ne s'agit pas de faire. Après, les gens choisissent la catégorie qui leur convient. Enfin, prenez un entrepreneur, donnez-lui le choix. Veux-tu faire une association ? Veux-tu faire une société ? Et puis, il choisit. Mais ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Qu'on puisse alors lui expliquer que qu'il pourra rester. Moi, je ne sais pas comment reste en contrôle une association. Moi, je dirige une association. Je ne sais pas comment je pourrais. Enfin, si demain j'ai un projet d'entreprise, jamais je ne prendrai nécessaire. Je ne sais pas comment je garantis à long terme ma conduite d'un projet dans le cadre d'une association. Moi, je ne sais pas faire. La majorité peut. Et puis j'entends quand même beaucoup de gens qui fréquentent les associations, autres que celles qui sont juste peut-être dirigées par une personne qui se plaignent du manque d'efficacité à partir du moment où on rentre dans une activité marchande, qui s'en plaignent parce que elle n'a pas la structure. Enfin, c'est quand même vraiment autre chose. Voilà. Donc voilà pour les. Je ne sais pas si c'est clair sur cette association coopérative.
Je pense que c'est clair. Oui, c'est pas juste.
Un petit élément que l'association ne permet pas de faire, même en Belgique, parce qu'effectivement, on fait énormément de choses avec une association, c'est qu'on ne peut pas rémunérer le capital de manière limitée. Donc, si on veut rentrer dans un schéma, donc l'association.
Est-ce que vous pouvez avoir un capital ?
Elle peut avoir un fonds social qui peut être très important et qui, globalement, peut lui donner le même, et ça peut être des apports d'autres associations, par exemple. Donc, on peut rentrer dans un schéma qui est très proche de celui d'une capitalisation, mais jamais on ne pourra rémunérer, puisque, comme le disait mon voisin, l'essentiel en fait, dans le fonctionnement, ce n'est pas tellement qu'il n'y ait pas de lucre, c'est la non-redistribution. Mmh. Oui, c'est vraiment ça qui est la contrainte. Et donc, une redistribution limitée, qui est une des voies de l'économie sociale, comme vous l'avez présenté, ça, en tout cas, dans l'association, ce n'est pas possible. c'est zéro redistribution. Alors, dans la période zéro distribution, là, avec toutes les limites que vous avez.
Qu'est-ce qui se passe en, termes de, en matière de liquidation? Si vous liquidez une association, qu'est-ce que vous avez?
Ça va être une association dont le but est civil.
Il y a deux prénommés qui doivent affecter la balance positive à une.
Et en termes de banque, une banque, comment regarde une banque pour octroyer des prêts à une association?
Elle va effectivement être très, très prudente par rapport à ça. Effectivement.
Là, il y a quand même
un argument, je veux dire, caution.
Voilà.
Prudente pour les autres.
Non, d'accord. Mais, vous voyez donc il y a quand même des caractéristiques de l'association qui fait qu'elle n'est pas adaptée à une activité qui repose, c'est le banquier. Et évidemment, je ne dis non plus, les banquiers ne financent absolument pas les associations. Bien sûr que non. Ou alors, ils vont demander des garanties aux membres. Mais quel membre de l'association va demander une garantie? Alors que j'ai un instrument à côté. Et donc, je pense, je crois que les différences, convaincu là-dessus. Donc,
oui. Moi, vous ne m'avez pas convaincu sur la question, sur la question bancaire. Je pense qu'un banquier va simplement voir quels sont les assets, quelles sont les garanties. Que ce soit une ASBL ou une société commerciale, à mon avis, ça ne va pas du tout faire la différence.
Mais pour avoir accès
il y a des associations qui sont très très riches.
Oui, mais
il faut être très très riche. Et puis vous allez donner des garanties réelles sur les biens.
Mais non. Même la solvabilité. Une association peut être très solvable, peut-être plus solvable d'ailleurs qu'une société commerciale.
Oui, mais ça résulte de dons.
Ça peut résulter de son activité commerciale.
D'accord. Mais d'abord, je ne pense pas qu'à cause de la. Mais d'abord, là, on parle d'association. On ne parle pas tout à fait de lancement de nouveaux projets. Nous sommes sur le lancement de nouveaux projets où il n'y a aucun actif. Moi, je n'ai jamais vu. On peut regarder le législateur en France a fait un certain nombre de choses pour encourager les banquiers à prêter aux associations, mais ça ne s'est absolument pas développé parce qu'il n'y a pas de rang, il n'y a pas la protection de la loi sur les faillites, c'est quelque chose qui ne peut absolument pas se développer dans des conditions un peu importantes.
Ça se fait, comme tu le dis, pour des riches congrégations, par exemple, etc.
Oui, là, effectivement.
Alors, à la limite, tu sais, en général. Ce qui attire les banquiers, c'est ça, c'est pas tellement des financements. Ce qu'on va surtout voir chez eux, c'est leur capacité de déposer chez la banque. Donc, je pense vraiment que là, il y a un point très.
Oui,
très
je crois. Marqué. Pour avoir une véritable activité de financement du secteur, il faut que je protège la banque. Et la protection de la banque, c'est.
Ce qui serait intéressant de savoir, parce que là, on peut continuer à discuter comme ça, mais c'est plutôt de savoir, et il ne faut pas le faire maintenant, parce que je pense qu'il y a tellement d'autres questions, mais c'est vraiment de se dire. Prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire quel est le problème de rentrer dans une association, vous en avez nommé deux, trois, quel est le problème de rester dans une SA ou dans une société anonyme de type classique, quel est le problème d'aller dans la coopérative, quel est le problème d'aller pour savoir, est-ce que quand on voit tous ces problèmes, est-ce qu'il y a une nécessité de créer une autre structure juridique qui permette de pallier à tous les problèmes des autres. De ce qui existe au-dessus aujourd'hui. Pour vraiment dire, oui, on a besoin d'un nouvel acteur dans le marché, parce que aujourd'hui, aucune des possibilités qu'on lui offre ne répondent à la totalité de ses priorités.
Pardon, moi je ne propose pas la création d'un nouvel instrument. Je dis, utilisons la SA, utilisons la SARL. Il faut juste changer 1832, c'est tout. Ou l'article 1er du Code civil. Je ne dis pas qu'il faut créer
un. J'avais compris que vous disiez qu'il fallait créer une nouvelle structure.
Il faut changer l'article fondamental sur le droit des sociétés, mais qu'il faut changer. Je crois que tout ce qu'on a dit tout à l'heure de manière plus large devrait nous pousser à le faire. La CIC anglaise n'est pas une forme juridique, c'est un label. D'accord. Je dis ce qui est intéressant, c'est d'utiliser tout l'héritage de la SA, de la SAS, etc., tout ce qui existe et tout ce qui est toute la gouvernance qui existe, cet extraordinaire environnement juridique créé pendant des dizaines et des dizaines d'années au profit. Mais non, il ne s'agit pas de créer un nouvel.
C'est très important ce que tu viens de dire. Et ça fait écho à ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu disais que chez nous, tu avais eu un espoir parce qu'il y avait une petite mention que le profit pouvait ne pas être la finalité d'une SA, mais que par après, tu déchantais malheureusement parce qu'il y avait toute une série de conditions qui empêchaient que cela se fasse de manière flexible, etc. Donc ce que tu proposes fondamentalement, c'est d'élargir la finalité possible d'une SA pour combiner un objectif social avec la flexibilité des modes de gestion d'une SA.
Voilà, exactement. Exactement. Et c'est quand même intéressant ce que vous avez fait sur l'article premier de votre code de commerce. Vous êtes le seul pays, à ma connaissance, à avoir fait ça. Il n'y a aucun autre pays qui a fait ça. Après, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez permis l'émergence de quelque chose qui se rapproche dans sa structure de l'économie sociale, puisque vous avez fortement réglementé le... C'est une société, hein, c'est quand même une société, mais vous l'avez... en fait, on n'est pas... C'est amusant, mais c'est vraiment intéressant. En fait, c'est vraiment novateur. Voilà, qu'il fait un peu trop tôt, parce que s'il l'avait fait un peu plus tard, il aurait fait peut-être de manière plus large. Mais et puis, du coup, économiquement, ça ne représente pas grand-chose.
L'affolement des enjeux fiscaux aussi, hein, au fait de ces limitations.
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je vérifie, mais je ne crois pas. Donc, voilà.
Et toute la discussion qu'on vient d'avoir jusqu'ici, moi... fait réfléchir sur notre troisième question, c'est pourquoi y a-t-il tant de réticence à ce changement qui est manifestement simple et qui ne coûte pas grand-chose. Pourquoi y a-t-il, et on le sent même dans notre groupe, hein, alors qu'on est, je pense, très ouvert à ces idées, pourquoi y a-t-il une résistance presque intuitive à certains changements? Est-ce que là, tu as évoqué le fait que le secteur de l'économie sociale a peur, enfin, ou veut préserver son domaine, en quelque sorte. Est-ce que tu vois d'autres raisons fondamentales qui expliquent ces réticences?
Pour répondre à ta question, je suis étonné de voir qu'on ne parvient pas à traduire en français le concept que nous semblons tous comprendre, social justice.
Oui, société d'intérêt social. Je vous en propose une, société d'intérêt social.
Bon, je veux bien. Je crois que l'important, et c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est que nous utilisions un concept, un mot français pour traduire ce concept qui est essentiellement anglo-saxon, je crois. Et parce que si on ne le fait pas, on va tomber dans des dénominations de choses connues et dont on ne fera pas. Et on ne mettra pas en évidence l'originalité de ce que les anglo-saxons ont voulu mettre.
Alors, si vous voulez...
Société d'intérêt social. Ouais.
Alors, votre point...
C'est très embêtant parce que le contraire voudrait dire que ce serait une société sans intérêt
social. Le concept de business, je crois que le concept de business est très important en anglais, et c'est un social business. Et donc... Je veux bien accepter cette traduction en français, mais je ne suis pas sûr que c'est là qui va faire en sorte qu'on la promouvra.
Alors, je voudrais répondre au premier point que vous soulevez. La raison pour laquelle dans mon livre, mais pas seulement dans mon livre, j'ai utilisé toujours le terme social business, c'est que les termes disponibles dans une langue sont formés sur l'héritage de ces pratiques et de ces habitudes. Donc, nous n'avons pas, en France, de terme adapté. Hein, social business, social business, Tony Blair utilise le terme social business. On n'a pas exactement l'équivalent. Nous avons un texte.
Je trouve que social business est ambigu. Parce que le social s'adresse-t-il à la finalité ou au mode de fonctionnement?
C'est ambigu pour vous, ça n'est pas ambigu. C'est très, si vous voulez. Mais ce que vous dites est d'une autre façon ce que je dis. Parce que pour un Anglais, pour un Américain, il n'a pas une seconde d'hésitation sur ce que ça veut dire. C'est bien la preuve, vous voyez. Il n'a pas, le problème de l'organisation sociale n'est pas du tout son problème. D'abord, ils n'ont pas des catégories arrêtées comme les nôtres. Hein. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. La notion d'économie sociale n'existe pas. Ils ont le third sector, même le quatrième maintenant. Mais ils regardent le produit, mais savoir où le ranger n'est vraiment pas un problème pour eux, vraiment pas une question. Et pour eux, social business, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur ce que ça veut dire, parce que cette notion d'organisation démocratique de l'entreprise, c'est quelque chose qui ne fait absolument pas partie de leur histoire récente, en tout cas. L'histoire anglaise en Angleterre, c'est un peu différent. Alors, si vous voulez d'abord une différence entre business et société, puisque ce n'est pas la même chose. Hein. Alors nous, on a l'entreprise sociale, on a l'entrepreneuriat social. Moi, je pense que l'entrepreneuriat social, c'est un peu plus bon. Il y en a la notion d'entreprise sociale. Le problème, quand on utilise, c'est vraiment, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus, mais si j'utilise le terme d'entreprise sociale, immédiatement l'économie sociale va dire, ça c'est chez moi. Ça c'est chez moi. Donc l'entreprise sociale, on ne peut pas l'utiliser parce que alors, l'entreprise sociale, il y a une historique, c'est chez moi. Enfin, pardon, mais ce débat, moi je l'ai posé, je pose au départ, j'essaye de définir, j'ai passé du temps sur l'économie sociale, sur le social business, pour placer les choses. Mais après, le débat de savoir chez qui c'est, franchement, c'est un débat complètement passéiste, mais complètement passéiste. Je dis simplement qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que vous avez concomitamment aujourd'hui, dans le domaine de l'économie sociale, vous avez toute une série de gens qui disent il faut revenir à nos racines. Et à mon avis, ils ont raison. Ils disent il faut revenir, nous perdons notre identité, il faut revenir à nos racines. Ils ont raison. Pour que cette économie sociale soit intéressante pour l'avenir, il faut revenir à l'idée de départ. Donc d'ailleurs, ils disent nous repoussons le social business, nous ne voulons pas. Bref. Je pense vous avoir, j'espère vous avoir convaincu, je peux le reprendre si vous voulez, que la forme de société offre des possibilités autres que celles qu'offre l'association ou la coopérative. Moi, je crois énormément à la rigueur dans les définitions. Je vois d'où vient la coopérative, l'association également. Je vois quelle était l'idée à l'origine de la coopérative. Ce n'est pas du tout l'idée, la suppression de des intermédiaires n'est absolument pas l'idée du social business. Et je pense qu'il est très important pour qu'un produit ait un avenir qu'il soit défini de manière adéquate et à disposition. Il est à disposition. Après. Alors, c'est mon histoire, chacun, voilà, j'ai une palette de couleurs et j'utilise la couleur que je veux. Pour revenir à la question de Laurent, la réticence, elle vient d'une part de l'élément que tu as indiqué, elle vient d'autre part sur l'absence de changement. Il va se faire le changement. Enfin, 1832, c'est le fondement de notre droit de la société. C'est pas rien de changer 1832. On n'a pas changé 1832 depuis des lustres. Donc c'est quand même pas rien. Et le pouvoir politique à qui j'ai parlé, la simple question, c'est combien d'électeurs, combien de voix.
Est-ce que des aides, il faut toucher au loin avec une main tremblante.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alain Damien, il a absolument raison. Donc combien ça va me rapporter de, moi, j'ai lu beaucoup de monde. Mais voilà les deux raisons. Mais le social business, c'est très très récent encore. Ça fait quelques années. Il faut pas être impatient. Donc, je pense que la réticence, elle est là. Et puis le monde des affaires, le monde traditionnel des affaires, il va aller très doucement parce que le risque juridique, c'est vrai qu'il y a un risque juridique. Il est théorique, il est réel, mais il est théorique. Danone, ça va très bien, ils arrivent à vivre comme ça, pour l'instant personne ne les embête. Donc encore une fois, pour me résumer, je ne préconise pas la création d'un nouvel instrument. Je dis simplement symboliquement, enfin plus que symboliquement, il est important de changer 1832, c'est important, vous l'avez fait, il faut le faire de manière plus large, et c'est un très très beau message que l'on peut passer à cette occasion-là. J'ai fait dans mon livre une analyse des problèmes juridiques qui peuvent se poser en l'absence de ce changement.
Je voudrais faire une remarque aussi, parce que beaucoup de grandes sociétés, si pas toutes, ont des fondations à vocation sociale, qu'à la limite, elles ne peuvent pas justifier au vu de leur objet social.
Ça, c'est une question. Ça, c'est une très très bonne question. Ça, c'est une très très bonne question parce que Mais bien sûr, et bien sûr, c'est tout le ça c'est tout le problème de l'action du mécénat au sens large, qui est conduit parce que c'est communément généralement accepté,
mais qui est en contradiction. Avec
mais bien sûr, oui, mais bien évidemment, mais bien évidemment.
Et c'est le même.
Mais attendez, mais c'est pour ça que si on continue à pousser cette RSE, la RSE, admettons que ce soit une des manifestations de la RSE, hein, je peux le mentionner là, je peux le mettre ou pas, ça dépend comment je définis la RSE. Bon. Mais il y a vraiment l'actionnaire peut très bien dire, vous, dirigeants, là, vous allez sur le podium pour dire cette année, j'ai donné 5 millions à la fondation de. C'est mon argent. C'est mon argent. Alors, ça ne se fait pas parce que ce n'est pas politiquement correct, mais où l'employé peut dire, vous êtes bien gentil. Là, il y a une entreprise, c'est très amusant. Il y avait, je ne sais plus, les archives, la Bibliothèque nationale de France a racheté récemment un manuscrit, je ne sais plus lequel. C'est le manuscrit de Casanova, pour une fortune. 10 millions d'euros. C'était aux alentours de 10 millions d'euros. L'entreprise qui l'a financé n'a pas voulu se faire connaître. Elle n'a pas voulu que son nom apparaisse. Parce que c'est difficile de dire je vais 10 millions et je ne t'augmente pas ton salaire. Bien sûr, ça pose de vraies questions. Alors.
Il paraît, par exemple, que Rolex appartient à une association sans but lucratif.
Mais IKEA aussi. Ça c'est pas du tout. Ça c'est tout à fait autre chose. Ouais. IKEA appartient à une fondation. Vous avez une société qui a une certaine surface dans ce pays qui appartient à une fondation. Albert Frère, tout en haut, c'est une fondation. Non, mais c'est pas une fondation caritative, mais c'est une fondation, premier endroit. Mais c'est une fondation. C'est pas du tout une fondation caritative, mais c'est une fondation. Pardon ?
Non, je ne veux pas rentrer.
D'accord. Mais Servier chez nous, les laboratoires Servier apportent une fondation qui n'ont rien de caritatif. C'est une façon d'organiser le patrimoine. Mais donc, évidemment qu'une fondation peut détenir, comme une association, peut parfaitement détenir une société commerciale. Ça, il n'y a aucune... Il n'y a aucun doute. Mais c'est un autre... C'est un autre sujet.
Alors, moi, je propose que, si, moi qui ai encore des questions brûlantes sur les questions juridiques...
Je vais simplement proposer une traduction. L'entreprise altruiste. C'est ça la signification de business, de social business.
C'est l'entreprise
altruiste.
Il y a un professeur Touriski que j'ai mentionné tout à l'heure. Qui serait très content d'entendre, d'entendre ça. Peut-être juste pour revenir, je ne vais pas être trop juridique, mais pour revenir au point que vous faisiez sur la fondation. Si vous voulez, juste pour ouvrir le débat, ce qu'on pourrait imaginer comme la société future, elle a un but. Bon, elle a un but, moi je lui garde son but parce que la loi parle d'un but, qui est par exemple, je prends Blédina, il s'est inventé une mission, permettre à toutes les femmes de nourrir leurs enfants.
Nourrir correctement.
Pardon ?
Nourrir correctement.
De nourrir correctement leurs enfants.
C'est-à-dire ?
Pardon ?
C'est-à-dire ?
C'est toute la question.
C'est la question. C'est ce qui est annoncé. Non, mais c'est ce qui est annoncé. On a tout un droit mou qui est en train d'apparaître. Autour de cette notion de mission. Dans ce document-là, je vous montrais toujours, dont je vous parlais tout à l'heure, de nos amis américains, on parle pareillement de la mission de la société. The mission of the company. Voilà, and redefinition of the mission of the company. C'est extraordinaire quand même. Hein. Ça prouve qu'il y a bien un besoin, que ce dont on parle, c'est pas juste quelques initiatives. C'est, tout d'un coup, on a cette notion de mission. Maintenant, j'avais le but, j'avais l'objet, j'ai une mission qui apparaît. Donc, on voit bien qu'il y a une demande de sens. Une demande de sens qui apparaît à tout niveau. Bien. Et ça va comme une traînée. Vous allez voir cette notion de mission aussi. Vous me réinvitez, même sans que je parle, je viens vous voir dans 2 ans, vous allez voir, je vous donne 18 mois, vous allez voir que chaque entreprise va maintenant s'annoncer dans son rapport annuel, elle va prendre 2 ans maximum une mission. Bon, moi je fais très peur, tout ce qui n'est pas un peu précis. Donc, mais je ramènerai ça dans le but, j'ai un but, non, c'est ce que je dis, un but d'intérêt général, je veux aider, bon. Et après je le décline. J'ai dans ma clientèle des femmes qui ont un pouvoir d'achat moyen, enfin élevé et moyen. J'enlève les élevés, admettons moyen. Bien, je produis selon une certaine façon. Et puis j'ai dans ma clientèle, dans mon public possible, des femmes à un revenu faible ou très faible. Eh bien, je mets un social business. Donc, je vais avoir plusieurs couches. C'est comme ça que je vois l'évolution, si vous voulez, une évolution possible et intéressante. J'ai, dans mon activité, dans ce qui est moi-même, dans mon identité d'entreprise, je vais avoir plusieurs modes d'activité, un mode plutôt traditionnel et un mode pour tel que je peux décliner un certain nombre de fois, telle population défavorisée, je vais le traiter différemment sous une forme de social business. Et puis, j'ai par ailleurs, dans le cadre de ma mission, mais ce n'est plus le cœur de mon activité, j'ai par ailleurs une action de mécénat, de philanthropie, etc. Et ça, j'englobe tout ça par rapport à mon but de société. Là, je retrouve une cohérence, je retrouve un acteur qui peut agir sur le plan économique et qui peut parler à ses actionnaires parce qu'il a quelque chose de cohérent à lui proposer. C'est comme ça que je vois l'évolution de...
Mais donc, vous voyez un intérêt de redéfinir la mission. Quand on regarde un groupe comme Danone qui dit « ma mission, c'est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre », eh bien, il fait exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, il découpe son plus grand nombre en disant voilà. Qu'il y a déjà les pays développés, puis il y a le bottom of the pyramide.
Absolument.
Et je dois redévelopper un business model qui peut répondre à...
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
L'importance de la mission, il le dit.
Non, oui.
Il ne peut pas le traduire.
Moi, je ne montrerai jamais une fondation, je ne ferai jamais... D'ailleurs, il s'en défend même de faire du RSE. Il dit, moi, le RSE, même s'il y a une équipe de RSE chez moi, c'est profondément dans mes gènes et dans ma mission d'entreprise.
Je dis ça... Totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. La seule chose, c'est que moi, j'ai un article qui me définit sur une société qui ne connaît pas le nom mission. Et que j'ai peur de... Non, mais j'en fais le but. Je ne peux pas dire j'ai une mission qui est de nourrir, enfin, comme vous l'avez dit là pour Danone, mais j'ai un but qui est de faire des profits. Mais non, on va faire simple. J'ai un but qui est la mission... Et voilà. Oui, mais attendez, là on est entre gens, vous êtes des gens très très sophistiqués. Mais c'est ce que non, mais c'est vrai. On a l'impression que ça vient naturellement, peut-être parce qu'on a discuté depuis 3 heures. Mais enfin, c'est un pas énorme en avant. Ce que c'est la société qu'on suit ainsi. Et voilà un acteur intéressant, clairement positionné dans le domaine de l'action civile, enfin dans son action sur la société, dans son environnement. C'est exactement ça. Alors, là, on a fait ça, on n'a pas abordé hier soir.
Oui, tout à fait.
Ça, on n'a pas abordé.
Et c'est opposable aux actionnaires.
Et c'est même associable aux actionnaires. C'est même, je vais les associer à ça. Là, il y a un vrai projet, il y a quelque chose qui se dessine de manière cohérente. Mais pardon.
Tout ça mène peut-être à aborder maintenant qu'on a mis ici comme quatrième question, mais il y en a plusieurs, c'est dans quelle mesure ces modifications vont permettre véritablement d'induire une autre dynamique au capitalisme dans son ensemble. Parce que si je reviens à ce que tu viens de dire, Daniel, tu viens de dire, bon, voilà, on va clarifier un peu les choses, et ça va permettre de distinguer, par exemple, pour une société comme Danone, certains groupes de population que l'on va aborder selon un mode traditionnel et puis d'autres plus défavorisés par exemple qu'on va aborder d'un mode social business. Mais la question c'est de savoir alors comment effectivement l'inclusion de ce nouveau mode va éventuellement se limiter à cela et tout le reste va rester inchangé ou si il va y avoir induction d'une autre dynamique dans tout le reste. Voilà, pense que c'est ce qu'il y a dans. Et alors, comment ce que tu as évoqué, peut-être trop brièvement jusqu'à présent, l'attention à l'autre, va jouer un rôle dans tout cela?
Il me semble, je connais ta question sur ce point, mais il me semble quand même que tout ce qu'on vient de dire, notamment dans les dernières minutes, que c'est un véritable ébranlement par rapport aux pratiques actuelles. On va essayer de le corroborer, enfin de le développer encore à nouveau, mais vous vous rendez bien compte que, à la fois par le haut et par le bas, j'amène des éléments de changement extrêmement, extrêmement forts. extrêmement forts, mais qui ne vont pas, n'attendons pas de ces deux modifications, par le haut et par le bas, si je puis dire, une révolution immédiate, c'est plutôt par ce que j'appelle de la capillarité. Je vais dans une entreprise qui ne fonctionnait jusque-là que sous le diktat du profit, habillé de quelques considérations de RSE, je vais dans une partie de cette entreprise effectivement créer une logique totalement inversée. Mais je ne l'isole plus, je ne peux pas l'isoler, je ne peux pas la mettre dans un sas sans rapport avec les autres activités d'entreprise. C'est les mêmes gens qui font la recherche, qui travailleront sur l'ensemble. Enfin, j'ai beaucoup d'activités qui sont transversales par rapport. Enfin, j'ai beaucoup de fonctions qui sont transversales par rapport à ces différentes activités. Dans les relations avec les fournisseurs, dans les relations, bon, les gens qui s'occupent de la production, dans tout le monde. J'ai toute une série de contacts. Je mets en contact deux logiques qui sont différentes. Je vous disais hier soir, que je ne crois pas l'avoir dit ce matin, qu'une des raisons qui fait que nous sommes là où nous en sommes, c'était l'absence de questions, l'absence de doutes. Il n'y avait pas... les dirigeants vous disent, les dirigeants notamment dans le domaine financier, nous ne comprenions plus nos produits, nous n'exercions pas de contrôle, personne ne remettait en cause, les CDO ça n'existe pas, il n'y a pas de... Moi j'ai connu un peu un sujet que tu ne connais pas Laurent, mais qui n'est pas loin de tes activités, j'ai défendu il n'y a pas longtemps la ville de Lyon, dans une action contre Dexia sur des produits d'emprunt exotique. Enfin, je dis exotique, c'est-à-dire que pour la société d'HLM de Lyon, non pas Dexia, c'est dans la presse, Crédit Agricole leur avait vendu des produits, au départ des produits de couverture d'emprunt, pour les couvertures d'emprunt, et puis ces produits de couverture d'emprunt sont devenus des produits de spéculation. Et c'était un sujet assez classique. Je ne sais pas s'il existait en Belgique, chez nous, toutes les grandes villes sont passées par là, tous les grands conseils régionaux, avec des sommes complètement gigantesques, enfin, des pénalités possibles. Sur ce contrat-là, la ville de Lyon, on avait un risque potentiel de 200 millions. 200 millions d'euros pour une société de HLM. Enfin, c'est complètement fou. Qu'est-ce qui a pu amener... Moi, j'ai regardé de très près les différentes étapes. Qu'est-ce qui a pu nous amener à cela ? C'est l'absence totale de distance. C'est l'absence de réflexion. C'est pas parce que j'avais des gens immoraux, fraudeurs, affreux, moins moral que nous. C'est pas du tout ça. C'est que le système était arrivé à ce que il n'y ait plus aucune distance par rapport au produit, aucune mise en perspective, un gain immédiat. Et une déconnexion totale avec l'activité de la société qui était de la HLM. Il le fait. Bon, aller perdre 200 millions sur des contrats de swap quand on fait quand on a un patrimoine de 300 millions en HLM, pose quand même deux trois petits problèmes. Je peux vous dire, je préférais que ce soit dans le cadre d'une association que dans le cadre d'une société, que dans le cadre d'une association. Ça a quand même quelques protections juridiques. Bon. Je dis que à partir du moment où j'introduis dans une frange. Mais quand même, regardez déjà ce temps-là, tout ce que ça va signifier en termes de réflexion dans l'entreprise pour aller vers ça. Et donc, je remets de la perspective, et cela influencera l'ensemble des prises de décision dans la société. Dans à quelle vitesse et dans quelle mesure les activités traditionnelles seront-elles elles-mêmes influencées par l'introduction de cette nouvelle perspective dans une de leurs activités. À quelle mesure les autres seront... À quelle vitesse? Je n'en sais rien. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que... La question est très légitime. Je ne vois pas... Mais même si la contamination ne se fait pas, le bilan ne serait pas négatif.
Non, d'accord.
Moi, le pari, on est dans le domaine du pari, et que cette contamination va se faire. Ce que me disent, encore une fois... les gens qui sont actifs là, c'est qu'il y a une demande, un intérêt de la part de la manière générale de l'entreprise qui est très fort. Chez Danone, l'ensemble, 90% des employés ont accepté qu'une partie de l'épargne salariale soit affectée à ces projets-là. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut quand même dire quelque chose en termes, enfin, vous voyez, on a déjà dépassé ma branche d'activité basse là, hein, la fumée basse, on l'a déjà dépassé par ce biais-là. La discussion avec Fidelity, elle était nouvelle. Donc, je crois dans la. Et quel est le ressort? Le ressort, alors il peut y avoir des ressorts sinistres, enfin sinistres, pas sinistres, mais il peut y avoir des ressorts purement mercantiles, il ne faut pas les exclure, bien sûr, il peut y avoir des ressorts mercantiles chez certains dirigeants, probablement, c'est très possible, mais je crois que, enfin moi je n'ai aucun problème parce que, enfin. Accepter aussi que la pureté des choses, je la sens pas trop, pourquoi est-ce que j'ai pris quel laboratoire, il faut que je retrouve les détails de ça, quel laboratoire a accepté, je crois que c'était Glaxo, a accepté de diminuer le prix sur un médicament pour l'Afrique, sur un médicament contre le sida, c'était parce que c'était Calper, je crois, est intervenu très fortement l'exigeant. Bon. Le fait est que ça s'est fait. J'ai une conjonction, je montre de plus en plus qu'un autre mode de fonctionnement est possible. Est-ce qu'on ira rapidement à ce que vous indiquiez, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'économie qui doit devenir d'intérêt, d'utilité sociale? Bien sûr, à quelle vitesse on y va, je ne sais pas. J'ai dit que c'est une voie beaucoup plus porteuse d'avenir que le RSE parce qu'elle est structurellement intéressante. Je parie aussi sur quelque chose, je ne suis pas sociologue, mais enfin, qui a été largement constaté, c'est la satisfaction, le plaisir qu'ont des personnes à participer à des projets qui sont d'utilité enfin, sociale. Ça, c'est frappant, on le voit tout ce à quoi je peux assister, on le voit dans l'enthousiasme avec lequel les sociétés viennent dans cet action tank d'HST que je vous mentionnais tout à l'heure, des grandes sociétés importantes, en disant on a besoin, voilà, on veut avoir une activité chez nous de social business. Alors, peut-être deux remarques à ce propos-là. D'une part, je pense que l'entreprise doit rester dans son activité première. C'est-à-dire que ce que je trouve dangereux dans les initiatives actuelles, c'est quand l'entreprise, un peu là, dans l'enthousiasme, commence à faire le social business dans des domaines loin de son activité. Je pense que l'entreprise n'est vraiment pas faite pour ça. Et donc, moi, ce qui m'allait bien, c'est, là, reprenons la mission but, et puis, dans le cadre de ce but, dans le cadre de le but de la société, j'ai une tranche, par exemple, enfin, défavorisée, à un titre ou à un autre. Et donc, mais au sens vraiment très large, hein, vous savez. Mais c'est toujours dans mon activité. En revanche, si je veux maintenant financer, comme le fait Schneider, du social business par ailleurs, plus généralement, très bien, ce n'est pas dans le cadre de l'activité, je finance comme je fais du mécénat. Pour moi, ça rentre ça, dans le cadre du mécénat. Hein. Ça, je crois que c'est important, important d'avoir cette distinction. Je trouve très dangereux qu'aujourd'hui, les entreprises aillent avoir des activités économiques dans des domaines qui ne sont pas le leur. Je trouve qu'elles n'ont pas de légitimité de le faire et que ça va...
L'efficacité ne sera pas la même.
Elle ne sera pas la même. Il n'y aura pas de transmission de savoir-faire. Il y aura des... Et puis, il y aura des réactions d'ONG, des réactions de tiers. Pourquoi êtes-vous là? Et puis, moi, ça me paraît... Il n'y a pas de pérennité, vous voyez, assurée. Ça me paraît très dangereux. Ce que... Je voulais dire aussi, oui, juste parce que c'est amusant que vous le sachiez, parce que c'est tout nouveau. Il commence à y avoir des fonds activistes, pas les très grands, mais il y en a notamment en France qui s'appelle Fitrust, qui a l'intention de commencer à poser des questions, à poser des questions aux sociétés. Quel type d'activité avez-vous dans ce domaine-là? Donc la pression de l'actionnariat va venir aussi sur ces sujets-là. Bon. Et donc ça va aller très vite. Ça va aller très vite avec tous les excès éventuels et les échecs. Parce que, encore une fois, là, on est sur la partie facile, qui est le lancement de tous ces projets. Le grand problème de ces projets, c'est la pérennité. Très, très, très difficile. Et c'est pour ça que vous utilisiez tout à l'heure le terme de « bottom of the pyramid ». Je pense que le social business va vers le bas, pas seulement, il peut aussi aller vers toutes sortes de sujets, hein, les gens isolés, bon, mais si on parle de ces domaines-là, mais il ne peut, peut pas aller très bas. Donc il faut faire très attention, à laisser, il ne peut pas aller très bas parce qu'il doit, sa particularité c'est la rentabilité pour avoir la pérennité. Donc il faut faire très attention, et ça c'est quelque chose que moi je reproche à certains mouvements, on ne résout pas tous les problèmes. Il faut bien que les autres acteurs, les acteurs du don, restent présents. Parce qu'ils ont un autre rôle à, jouer. Et attention, le social business va capter une partie de l'argent qui allait vers le don. Donc une responsabilité là aussi, hein, c'est une véritable responsabilité. Il faut être très... C'est pas le monde est tout beau, il faut gentil, faire très attention à ça.
En fait, tu as parlé de la contamination une fois que le social business est introduit dans l'entreprise. Notre question serait comment faire en sorte qu'il y ait une contamination pour d'introduire le social business.
Celle-là, elle existe. Elle existe.
Quel est le mécanisme
Parce que le mimétisme.
Le mimétisme.
Ah oui, elle existe. Alors, moi, c'est l'exemple, je n'ai pas été clair quand je disais, c'est ce qu'ils me disent dans cet Action Tank d'HEC. Ils disaient, on a vu Saint-Gobain débarquer la semaine dernière. On ne sait pas quoi faire, on n'a pas l'idée, mais on va faire du social business.
C'est ça.
Ah oui, le mimétisme, ça va très vite. Et puis, ça va très très vite. J'ai besoin, voilà, c'est le dernier truc à la mode, il faut que j'en ai un peu chez moi. Ça, c'est pas... Non, mais ce que je vous dis n'est pas très positif, mais bon, parce que au départ, il n'y a pas toujours une motivation extrêmement... on n'est pas forcément chez Ricoeur, où j'ai pris conscience que mon identité se construit à partir de mon rapport à l'autre. Hein.
Juste une question pour revenir aux questions qui sont reprises là. Pourquoi l'attention à l'autre va-t-elle introduire un autre dynamisme du capitalisme? Est-ce que c'est vraiment l'attention à l'autre ou est-ce que c'est en fait une certaine forme d'attention à soi dans la pyramide de Maslow? Et c'est de dire en fait c'est la recherche de sens pour soi.
C'est ma formulation, c'est le type de formulation que j'aime bien. C'est que le sens que je cherche pour moi, je ne le définis que par mon rapport à l'autre. Une conviction en tout cas intellectuelle, je ne sais pas dans quelle mesure je la mets dans ma vie, mais bon, ça c'est pas le sujet ici. Mais en tout cas, c'est une conviction assez profonde. Et qu'il paraît être une façon de penser vraiment porteuse d'avenir à partir du moment où il faut qu'on regarde l'avenir de manière beaucoup plus solidaire qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Je pense que l'avenir est vraiment dans une humanisation, c'est-à-dire la prise en compte de l'autre, la solidarité avec l'autre, dans cette humanisation de ma relation avec l'autre que je trouverai mon identité dans un monde en réduction d'espace. Dans mon futur livre, il y a un article, c'est la fin du Grand Ouest, hein, c'est la fin des terres. Je peux me lancer, c'est dans les grandes friches, il y a des frichés. Ce qui compte, c'est dans l'initiative individuelle, on n'en est plus du tout là. Et qu'il faut que j'invente un autre type de relation, à l'autre, qui n'est plus fondée sur ma consommation propre, mais sur la construction d'un lien avec l'autre. Et c'est pour ça que je pense, si vous voulez, que le. Ce que j'ai dit surtout, j'utilise cette idée pour justifier. Enfin, elle légitime encore plus le social business. Elle légitime encore plus cette idée d'une activité économique qui est conduite par le service que je rends à autrui. Alors, je ne dis pas que. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne prétends pas que tout le monde demain va être transformé dans l'entreprise et. Que tout d'un coup, aujourd'hui, il y aurait une soif de construction de mon identité à partir de la perception de l'autre. Je ne sais pas tout ce que je dis. Je disais au début de cette, ce matin que les comportements au sein de l'entreprise sont plutôt plus radicaux encore qu'ils n'étaient avant. Et je ne pense pas qu'il y ait ni d'ailleurs une montée des égoïsmes ni une réduction. Je ne le pense pas. Il y a un aspect consommation, marchandisation, consommation très très fort. Très très fort, mais dont l'agent économique est précisément celui dont on parle depuis ce matin. quand même amusant de faire à la fois de la RSE et de sortir des pubs où j'explique qu'en achetant mon produit, c'est une vie merveilleuse avec une femme jeune qui sent bon, une vie, une porte vitrée et des tapis extraordinaires que j'achète. Hein. C'est quand même là, il y a une, pour moi, bon, il y a quand même un sujet. Mais pour revenir à votre question, enfin, je crois que j'ai répondu sur ma conviction personnelle. Et je pense donc que cette idée est porteuse, voilà, je pense qu'elle est porteuse d'avenir. Je ne pense pas qu'on a assisté à une modification des gens qui ferait que tout d'un coup. En revanche, je crois que cette attention à l'autre, plus présente par la publicité que je donne aux activités, par la connaissance que j'en ai, et dans cette compétence que je mets au service de l'autre, dans ma production, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, que dans cette compétence, au creux de cette compétence, j'aime bien l'expression, au creux de cette compétence, il peut y avoir surgissement d'une règle morale. Et alors ça, si c'est le cas, après les effets sont importants. Et ça, c'est à mon niveau individuel. Moi, ça, j'aime beaucoup, si vous voulez, que c'est en mettant les gens dans un certain contexte que, dans un certain contexte, en les sortant de l'ignorance, en combattant l'ignorance, en donnant les exemples, sans connotation morale, que vous pouvez, et en montrant que les gens ont utilisé leurs compétences pour, au service, à la mettre au service de cette, ou à la suite de cette attention, qu'ils ont utilisé leurs compétences, là, vous pouvez créer de la présence morale. Ça, je le pense vraiment. Et ça, c'est vraiment... C'est comme ça qu'on revient, pour moi, à une formation éthique. Ça, j'y crois fondamentalement. Vraiment, très, très fortement. Je trouve que c'est un axe que les écoles de commerce devraient sur lequel il faudrait vraiment réfléchir et essayer de construire quelque chose là-dessus.
Donc, vous dites de mettre les gens dans du social business pour qu'ils arrivent à tirer quelque chose.
Même pas les mettre dedans. Même pas forcément les mettre dedans. Leur en parler. La connaissance. Et puis, si vous voulez, l'exposé construit d'un projet. Forcément, il y aura chez Blédina maintenant un certain nombre de réunions où Blédina va exposer à tout le monde, des quantités de gens, ce qu'ils ont fait, la technicité avec laquelle ils ont fait ça. Et le but. Alors il y aura bien quelqu'un qui dira au fond de la salle, ouais, ils ont fait ça parce que ils se sont plantés sur. Enfin, ils ont besoin de ça pour leur image. Oui, très bien, peut-être. Il n'empêche que ce temps alloué à cela l'exposer, le faire connaître avec la compétence. Hein, ça, je pense que c'est porteur d'une évolution. Et ça, je pense vraiment. En tout cas, je l'espère.
J'ai donné un cours de droit des affaires pendant quelques années dans une école de commerce ici à Bruxelles. Et au premier cours, je demandais toujours pourquoi vous voulez devenir ingénieur commercial ou licencié en sciences consulaires. J'entendais toujours dans l'auditoire derrière, pour le pognon. Je dis très bien, parlons un peu de l'argent. C'est quoi l'argent pour vous? Puis vous savez, vous pourrez considérer que l'argent est une matière inerte, que vous allez tenter d'accumuler le plus possible pour soigner vos angoisses. Quelle angoisse, c'est bien l'angoisse par rapport à la finitude de votre vie. Ouais. Et pour conjurer justement cette angoisse par rapport à la finitude de votre vie, vous serez peut-être tenté d'accumuler le plus possible d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent c'est un nombre et que par définition le nombre est infini. Ou alors vous considérez que l'argent est une énergie. Une belle énergie si vous faites de belles choses pour ou avec l'argent, une énergie moche si vous faites des choses moches pour ou avec l'argent. Et alors au deuxième cours, j'ai plein de monde, et alors je leur parle de trucs les plus emmerdants.
Comme il le met presque midi et demi, est-ce qu'il y a encore une question brûlante que quelqu'un veut poser? Non? Si, bah, je voudrais alors vraiment remercier Daniel, parce que je trouve qu'on a touché à des points vraiment fondamentaux ici, et grâce à ton apport... personnellement, j'ai pu vraiment avancer dans ma réflexion. J'espère que c'est le cas pour vous tous. Merci beaucoup et voilà. J'espère qu'on se reverra.
Merci à vous. Merci à vous tous. Moi, vous m'avez aussi beaucoup apporté parce que dans cette réflexion que je conduis, va vous permettre de bien avancer. Voilà. Je dis, ouais, j'ai beaucoup travaillé depuis hier soir.
Ah, oui.
Depuis hier soir.
C'est intense. Hein.
C'est intense.